France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Question Politique. Nous sommes à 24 heures de ce qui pourrait être une première dans la Ve République. Depuis 1958, l'article 49.1, celui qui mène au vote de confiance, a été utilisé à 41 reprises. Jamais il n'a provoqué la chute d'un gouvernement. À 15 heures ce lundi, François Bayrou prononcera une déclaration de politique générale, sans aucun doute sur le risque de surendettement et cet effort qu'il exige d'une quarantaine de milliards d'économies. Puis, discussion, vote, particularité du 49.1, seuls les suffrages exprimés, les pour et les contre, seront comptabilisés, les blancs, les nuls, les abstentions n'auront aucun poids. Si la majorité n'est pas favorable, François Bayrou devra remettre sa démission à Emmanuel Macron, le chef de l'État qui, en réalité, est déjà à la recherche du successeur du Béarnais. Alors, qui à Matignon? Les socialistes se disent prêts, le RN et Jordan Bardella caracolent en tête des sondages. Et pour les Républicains, voici revenir le moment des questions existentielles. La rentrée de la droite à Port-Marly devait être synonyme de grande réconciliation. Elle est percutée par ce vote de confiance. Les LR, qui avaient enfin repris des couleurs en revenant aux affaires avec des ministres poids lourds, ont été incapables cette semaine d'afficher une ligne claire et unitaire. Sans doute toujours la peur de l'effacement, car ce lundi, il se joue beaucoup de l'avenir du pays et du futur du parti. On en parle avec François-Xavier Bellamy, le vice-président des Républicains, et dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
France Inter. Questions politiques. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue François-Xavier Bellamy, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de votre invitation.
Vous êtes le numéro 2 des Républicains, vous êtes également eurodéputé. À mes côtés pour vous interviewer, mes consoeurs que je salue, Alix Bouillaguet de France Télévisions. Hello Alix.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et tous.
Première question, François-Xavier Bellamy, vous n'êtes pas député sur le sol national, vous êtes député européen, je l'ai dit, mais si demain vous étiez dans l'hémicycle, à Paris, après la déclaration de politique générale, après la discussion, ça va être l'heure du vote de confiance, pour ou contre, quel serait votre choix?
D'abord, je voudrais rappeler que ce n'est pas un vote de confiance. Dans les institutions de la Ve République, c'est le Premier ministre qui engage la responsabilité de son gouvernement sur cette déclaration qu'il va prononcer demain. Ce n'était pas notre choix. Tout le monde reconnaît que le Premier ministre a surpris, y compris le gouvernement, en décidant de ce moment politique qu'il a lui-même provoqué. Mais le fait est que cette déclaration, nous le savons, vous l'avez dit, elle va porter sur une question très simple. La France est-elle dans une situation de risque budgétaire majeur? Et à cette question, nous ne pouvons que répondre oui, parce que c'est l'alerte que nous partageons depuis des années maintenant. Nous sommes la seule famille politique à n'avoir jamais varié sur cette question fondamentale. Depuis des années, disons que la France est au bord de la faillite et que cette faillite, elle pèserait sur tous les Français, en particulier sur les plus modestes.
François-Xavier Bellamy, je vous entends. Nous ne pouvons pas, c'est ce que vous avez dit.
Nous ne pouvons pas nous déjuger. En tous les cas, c'est ce qui nous réunit tous. Et vous commenciez en disant que nous étions très divisés, mais ça n'est pas le cas. Sur le fond, le constat, il est unanime chez
Laurent
nous.
Laurent Wauquiez, le chef de file des députés dans l'hémicycle, dit lui-même que sans doute il y aura un député sur deux qui ne votera pas la confiance, qui va dire qu'il n'est pas en capacité de dire « Ok, il y a un constat et je le partage ». Vous êtes divisé.
Ce qui est là, certain, c'est que un fait. Ce vote, écoutez, ce serait dramatique de passer toute notre émission à parler de ce vote, on en a déjà trop parlé parce qu'en réalité l'issue, elle est déjà jouée.
Donc, la question. Je voudrais bien vous entendre quand même. Vous êtes en train d'éviter la question.
Pas du tout.
C'est très fort. Vous dites, on ne peut pas. C'est notre ligne. On a toujours défendu ça.
On ne peut pas. Mais aucun parlementaire, les Républicains, ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni au Parlement européen, n'a une ligne divergente sur le constat fondamental dont il est question aujourd'hui. Oui, la France est dans une situation de risque budgétaire majeur. Maintenant, faut-il voter ou non pour soutenir ce choix qu'a fait le Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement? Objectivement, je comprends, Bruno Retailleau l'a dit dès le début, nous comprenons tous que pour les députés qui sont à l'Assemblée nationale, ce soit difficile en effet de se sentir otage de cette initiative qui a été prise sans concerter personne.
Donc c'est la méthode.
C'est en fait.
Vous ne voulez la il méthode. A choisi sa sortie, c'est ça que vous êtes en train de dire vous...
Et là encore, cette méthode-là, bien sûr, on est tous unanimes pour dire qu'au moins, elle pose un problème de fond dans la solidarité gouvernementale qui aurait pu prévaloir dans un moment comme celui-là. Maintenant, ce qui compte, c'est pas qu'on parle indéfiniment de ce vote de demain.
On va parler
de l'après. Ce qui compte, c'est qu'on parle de la réalité du problème de la dette, la réalité des solutions que nous voulons porter et que là encore, nous sommes unis pour porter. Nous avons été à Matignon dans les consultations qu'organisait le Premier ministre avec Bruno Retailleau, avec Laurent Wauquiez, avec Mathieu Darnaud, président des sénateurs LR, et moi-même, et nous avons parlé d'une seule voix pour dire cette chose très simple, pour sortir de la crise budgétaire que la France traverse aujourd'hui. On ne peut pas demander toujours à la France qui paye déjà beaucoup, à la France qui travaille et qui cotise, de payer encore plus. C'est pour ça que ces deux jours fériés sont pour nous un symbole qui va dans le mauvais sens. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que ceux qui pourraient travailler, ceux qui pourraient contribuer, ceux qui pourraient cotiser, soient reconduits vers l'emploi. Et c'est un enjeu existentiel pour la France.
François-Xavier Bellamy, on va bien sûr parler du fond, mais quand même encore quelques questions sur ce... Vous dites, on va parler de l'après et des solutions. Il faudra bien quelqu'un à Matignon, il faudra bien une équipe, il faudra bien, car personne n'a la majorité, des coalitions, des compromis. Alors, le chef de l'État, on le sait déjà, à la recherche du successeur de François Bayrou. Jeudi, Laurent Wauquiez, encore lui, a dit que la droite ne censurera pas un gouvernement socialiste. Cela au nom de la stabilité politique, ça a été le tollé dans votre famille. Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez entendu ces propos ?
Pour nous, là encore, les choses sont très claires.
Vous, François-Xavier Bellamy.
Ce qui compte, c'est le contenu. Ce que Laurent Wauquiez a voulu dire, c'est que nous ne sommes pas les artificiers de l'instabilité gouvernementale. Mais sur le fond, il est très clair que nous ne laisserons pas faire un gouvernement qui enverrait la France au tapis. Si nous sommes rentrés au gouvernement il y a un an, si nous avons accepté ce choix qui était tout sauf une évidence, ça n'est pas parce que nous sommes devenus macronistes, nous ne le sommes toujours pas aujourd'hui. Ça n'est pas parce que nous avions envie de poste ou de place pour nous-mêmes. Si nous sommes rentrés dans ce gouvernement, c'est pour une seule et unique raison. C'est parce qu'après la dissolution, si nous ne faisions pas ce choix, c'était le nouveau Front populaire qui arrivait au pouvoir. Et cela, nous ne pouvions pas l'accepter. Et les électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont fait que, grâce aux députés courageux qui se sont engagés dans cette élection législative après la dissolution, nous avons toujours un groupe fort à l'Assemblée nationale, eh bien, nos électeurs ne pouvaient pas imaginer que nous laisserions la gauche prendre le pouvoir.
Mais aujourd'hui...
Aujourd'hui, ça n'a pas changé.
Aujourd'hui, le Parti Socialiste fait des offres de service. Olivier Faure se voit à Matignon et il semble qu'avec LFI, ça n'aille plus aussi bien. Est-ce que Olivier Faure à Matignon, c'est sans la droite? Mais est-ce que ça veut dire que la censure est automatique?
Mais ce qui compte pour moi, c'est qu'Olivier Faure fait des propositions. Et moi, j'écoute ce qu'il dit. Et j'écoute le contre-budget qu'ont présenté les socialistes à leur congrès de Blois. Et ce contre-budget, c'est quoi? C'est 30 milliards d'euros de dépenses publiques en plus et 30 milliards d'euros de nouveaux impôts dans le pays qui est déjà le champion de l'OCDE en matière de dépenses publiques et en matière de fiscalité. Est-ce qu'on va s'en sortir en allant encore plus loin dans tout ce qui est en train d'asphyxier la France aujourd'hui et toutes les forces vives de la France? C'est impossible. Mais alors, moi, je crois que les socialistes français, manifestement, n'ont pas changé. Et d'ailleurs, Olivier Faure n'a toujours pas exclu de repartir en campagne demain avec LFI, en campagne demain avec une extrême gauche qui a décidé de se faire, je cite Jean-Luc Mélenchon lui-même, le champion de l'organisation du bordel. Donc, on doit aujourd'hui ouvrir les yeux. Ce parti socialiste-là ne peut pas gouverner la France sans la mettre en danger mortel. Donc, nous nous y opposerons.
Existe-t-il une autre figure? Je vais vous citer des noms. Éric Lombard, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, dans le casting. Est-ce que ça, c'est encore la gauche que vous ne voulez pas à Matignon?
Et tout ce qui compte, c'est le contenu. Si, encore une fois, c'est pour faire la taxe Zucman, de nouveaux impôts, si c'est pour faire la retraite à 62 ans, une dette supplémentaire, alors que toute l'Europe est déjà, y compris dans les pays gouvernés par de socialistes, en train de regarder sidérer le délire des finances publiques françaises. Si c'est pour faire ça, alors c'est absolument exclu. Et pardonnez-moi de le dire, mais je vois dans la liste des gens que vous citez des personnes qui sont, me semble-t-il, déjà promises à la censure, y compris de la part de la gauche. Bernard Cazeneuve, qui a quitté le Parti Socialiste, encore une fois, je ne vois pas comment l'équation peut fonctionner. Encore une fois, pour nous, ce qui compte, sortons des spéculations qui intéressent trois arrondissements parisiens, parlons de la France et des Français. Ce qui compte, c'est de sortir de cette spirale destructrice de l'impôt, des charges, des taxes, de la complexité, de la réglementation qui est en train d'étouffer ce pays. Et cela, c'est ce que nous voulons pour la France.
Question.
C'est aussi, d'ailleurs, sur les questions de sécurité et d'immigration que nous avons manifestement une divergence évidente avec le Parti Socialiste.
Question d'Alix Bouyagué.
François-Xavier Bellamy, je reviens quand même un petit peu à ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit qu'il n'y a aucune ligne divergente au sein des Républicains concernant la dette. Alors, expliquez-moi pourquoi, à l'Assemblée nationale, il y a 49 députés LR, un tiers va voter contre la confiance ou s'abstenir. Bruno Retailleau, alors, je vous fais dans le détail, hein, c'est quand même des cadors, dit il faut voter la confiance. Xavier Bertrand, il dit, il est contre. Pour Nicolas Sarkozy, alors c'est l'abstention, mais c'est aussi la dissolution. Et puis, David Lisnard, Pécresse, Copé, eux, c'est carrément la démission d'Emmanuel Macron. C'est quand même le grand bazar hein, au sein des Républicains.
Encore une fois, ce qui compte, c'est le contenu. Sur le contenu, nous sommes d'accord. La question de ce vote, qui, je le répète, n'est pas un vote de confiance. La question de ce vote, c'est qu'est-ce que nous devons répondre à la question posée par le Premier ministre demain. Ce vote, l'issue, tout le monde la connaît. Donc, il est inutile
mais
de spéculer trop longtemps.
Mais comment vous expliquez, vous n'êtes pas d'accord? Regardez, je vous dis, les Pécresse, les Nicolas Sarkozy, les Retailleau, les Bertrand.
Vous pouvez citer autant de noms que vous voulez. La vérité, c'est que, est-ce que toutes ces personnes, et je le répète, ce qui compte le plus, est-ce que tous nos électeurs, est-ce que tous nos militants, est-ce que les 135 000 adhérents qui nous ont rejoints et qui sont aujourd'hui ceux qui font de notre parti le premier parti de France, est-ce que tous ceux-là sont d'accord sur le fond du constat et sur ce que la France attend? La réponse est oui. La France est en situation de danger existentiel à cause de la dette qui s'accumule sur ses épaules. Maintenant, la stratégie de François Bayrou, celle qu'il a choisie tout seul, elle suscite effectivement des divergences d'analyse sur la meilleure manière d'y répondre.
Erreur
ça
historique.
N'est vraiment pas dramatique. Laurent Wauquiez a dit qu'il voulait répondre
vous êtes
oui à la question posée demain. Bruno Retailleau également.
Est-ce que aujourd'hui, François Bayrou, qui veut se mettre dans les pas de Pierre Mendès France, fait une erreur historique?
Mais nous lui avons dit, encore une fois, je crois que la responsabilité d'un Premier ministre, la responsabilité d'un gouvernement, y compris dans la situation très complexe que nous vivons aujourd'hui, c'était sans aucun doute de tenter de mettre un budget sur la table, de porter ce budget jusqu'au bout, comme l'a fait Michel Barnier. Et si ce budget n'est pas accepté, et s'il est censuré, d'en tirer les conséquences, bien sûr. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui pose une vraie question pour nous, c'est que on a le sentiment que le Premier ministre a été à ce point de rupture avant même d'avoir essayé de construire les conditions d'un accord sur un budget. Et la France, aujourd'hui, a besoin, bien sûr, d'un
Françoise.
Budget.
Françoise Fraisseuse. Vous essayez d'atténuer les tensions au sein de LR, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamental aujourd'hui qui se joue entre deux lignes? C'est la ligne dissolution qui peut amener peut-être le RN en tête d'une majorité extrême droite-droite, où la ligne, on essaye de consolider pour éviter ce basculement. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème et comment vous réagissez par rapport à ça? Quand vous écoutez Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui a bataillé en 2007 pour essayer de contenir le RN, qui dit, ben maintenant, c'est la dissolution, et si jamais, oui, il y a l'hypothèse RN, et ben on y va, est-ce que vous n'êtes pas extrêmement interloqué, ou en tout cas envie de nous expliquer ce qui se passe.
Mais sur la question de la dissolution, ça tombe bien, le choix, il appartient institutionnellement au président de la République. Donc on peut spéculer, là encore, autant qu'on veut, sur y aura-t-il ou non demain une dissolution. Ce qui nous importe pour nous, comme famille politique, c'est de nous y préparer et d'être prêt si cette dissolution intervient. Maintenant, la question de savoir si elle doit intervenir, elle ne nous appartient pas.
Mais vous la souhaitez, la question de Françoise Fraisseuse, c'est quand même, est-ce que vous, François-Xavier Bellamy, numéro 2 des LR, vous la souhaitez, la dissolution?
Moi, je crois profondément que le moment démocratique qui décidera de la véritable alternance profonde dont le pays a besoin, ce sera l'élection présidentielle. Et je crois que notre devoir, d'ailleurs, au-delà de la situation de grande confusion que nous connaissons aujourd'hui, qui consiste à tenter de faire au mieux dans un moment où nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée nationale, notre devoir, c'est surtout de préparer cette alternance, parce que la France a besoin d'un changement profond.
Et
nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes au gouvernement, Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, mais sans avoir de majorité à l'Assemblée nationale, il est parfaitement clair, et tous les Français le savent bien, qu'il fait tout ce qu'il peut, mais qu'il ne fait pas tout ce qu'il veut et tout ce qu'il voudrait faire pour que le pays puisse demain retrouver la maîtrise de ses frontières, retrouver la sécurité pour la France. On aura besoin pour ça d'une élection présidentielle.
En 2027, et on aura je comprends bien,
d'une majorité
en 2027.
Claire.
Mais est-ce que vous appelez à une présidentielle anticipée comme Jean-François Copé ou Valérie Pécresse?
Et là encore, cette décision, elle n'appartient qu'à une seule personne qui est le président
de la
République.
Mais vous la souhaitez?
Moi, je crois que cette élection présidentielle, dans tous les cas, qu'elle soit dans 2 ans ou qu'elle soit plus tôt que cela, elle sera le moment de vérité dont la France a besoin. Maintenant, le président de la République a, lui, de tirer les conséquences de ce qu'il voit dans la vie démocratique. Charles de Gaulle avait démissionné après un référendum manqué sur la régionalisation en 1969. D'autres présidents n'ont pas fait le même choix. François Mitterrand, Jacques Chirac sont devenus minoritaires dans le pays sans pour autant démissionner et ils ont connu des moments de cohabitation. Je crois que ce qui serait délétère, c'est d'organiser une pression sur le président de la République parce que je crois que la force de nos institutions tient à ce que chacun soit respecté dans son rôle. Ça n'enlève rien au fait que, évidemment, la question est évidemment posée et qu'elle existe pour lui, elle lui appartient.
Mais vous souhaitez une élection présidentielle qui réglera les problèmes, mais quand on voit l'état de division de LR qui rebondit, là on voit de nouveau la guerre Retailleau-Wauquiez, on voit un parti complètement faibli qui n'a pas de stratégie, est-ce que vous ne dites pas non, mais c'est extrêmement risqué pour nous. Comment
Françoise,
vous restez positif et optimiste pour votre propre famille politique dans l'environnement actuel?
Je serais très heureux de vous proposer de venir avec moi après cette émission. On file à Port-Marly, où je vais retrouver tous les adhérents qui sont réunis pour notre congrès. Nous adoptons nos nouveaux statuts. Nous avons 3000 personnes qui participent à ce grand événement de rentrée. Je peux vous garantir que l'ambiance est à l'unité. Et la vérité, c'est que ça n'est pas le vote provoqué par François Bayrou qui va suffire à nous diviser sur le fond, sur le constat, sur le diagnostic de ce que la France vit aujourd'hui, sur les remèdes dont elle a besoin. Nous sommes unis, sans doute comme la droite l'a rarement été dans son histoire. Et la vérité, c'est que notre responsabilité, c'est maintenant de faire de cette unité l'occasion de préparer l'alternance. Après, vous pouvez raconter indéfiniment le spectacle des divisions, parce que oui, c'est vrai, nous ne sommes pas un parti caporaliste et que
Vous l'avez été, François-Xavier Bellamy.
Non.
La droite, en général, c'est un chef et des gens qui suivent.
La droite, c'est le goût de la liberté et c'est le fait que chacun peut apporter à la discussion ce qu'il veut donner pour éclairer la situation.
On a compris tout à l'heure votre positionnement par rapport à la gauche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport au Rassemblement National. Vous êtes un proche, un ami même de Marion Maréchal. Vous connaissez aussi très bien
Jordan... Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière élection européenne.
Jordan Bardella.
Je ne crois pas particulièrement que Marion Maréchal ait été particulièrement bienveillante à l'égard
de
la liste que je conduisais.
Regardons devant.
Je défends
Républicains. Est-ce que les Républicains vont devoir, à un moment, en fonction des circonstances politiques, devoir tendre la main au Rassemblement National? Est-ce que c'est la logique de l'histoire? Ce matin, Laurent Wauquiez disait que l'union des droites, c'est souhaitable. Est-ce que vous la souhaitez, vous?
Mais moi, je souhaite l'union de tous les électeurs de droite derrière la famille politique dont la mission est de les représenter pour apporter cette alternance dont la France a besoin. Les Républicains, et moi je suis rentré dans cette famille politique en 2019 et je n'ai jamais varié. J'y suis rentré pour réussir à reconstruire de l'intérieur cette famille. Parce que les Républicains, c'est historiquement la formation politique dont la mission est d'incarner la droite en France. Et aujourd'hui, notre devoir, c'est de reconstruire ce pilier de notre vie démocratique. Je n'ai jamais été macroniste parce que je n'ai jamais cru au « en même temps ». Je n'ai jamais cru à la fin des clivages. Je ne crois pas qu'on puisse être en même temps de droite et de gauche.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des ministres républicains dans un gouvernement Rassemblement National ?
Dans toutes les grandes démocraties du monde, il y a une droite et une gauche. Et oui, c'est vrai, on a pu croire ces dernières années à l'effacement de ce clivage par la dévitalisation des vieux partis qui incarnaient la droite et la gauche.
François, aujourd'hui, notre devoir... Vous ne répondez pas à la question,
mais, pardon,
Alexandra.
Je vais au bout de la logique.
Concrètement, là, on va parler vrai, concrètement, vous rentrez ou pas, Jordan Bardella est à Matignon demain, est-ce que vous dites, si on vous propose un poste de ministre, vous dites OK?
Mais écoutez, Éric Ciotti est rentré au Rassemblement National, est-ce qu'il a été suivi par les cadres des Républicains? Aujourd'hui, notre devoir, c'est de reconstruire la droite. Et le Rassemblement National refuse d'assumer le rôle d'un parti de droite. D'ailleurs, Marine Le Pen dit la même chose qu'Emmanuel Macron sur ce point. Elle dit le clivage gauche-droite, ça n'existe pas. C'est un désaccord fondamental entre nous. Elle a le droit de le penser. Moi, je pense le contraire. Et ce que je vois en Europe, ce que je vois dans tous les pays européens, c'est le retour de la droite. Pas les amis de M. Macron. Le groupe Renew, qui était le troisième groupe au Parlement européen, est devenu le cinquième et n'a quasiment plus aucun gouvernement en Europe. Pas les amis de Mme Le Pen. La force politique qui gagne partout en Europe, c'est la droite européenne.
Mais vous ne répondez pas à la question.
Giorgia Meloni, elle se définit comme étant de centre-droit et elle gouverne avec Forza
Italia. C'est ainsi qu'elle se définit. L'histoire de son parti n'est pas tout à fait celle-ci.
La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez... Quand j'ai été élu en 2019 pour la première fois au Parlement européen, il y avait 7 gouvernements de droite sur 28. Aujourd'hui, il y a 15 gouvernements dirigés par la droite sur 27. Et donc... ce mouvement de fond, il n'y a aucune raison que la France ne le rejoigne pas demain. Et ma conviction profonde, c'est que la seule force politique qui peut assurer l'alternance dont la France a besoin, c'est la droite de gouvernement.
Vous avez 49 députés, je le rappelle, répondez à la question. Jordan Bardella à Matignon, est-ce que vous êtes ministre, vous ou d'autres républicains ?
Mais je ne vais pas partir du principe que ce n'est pas nous qui pouvons relever la tête. Depuis
mais
un an,
regardez les sondages et regardez même la conclusion de Nicolas Sarkozy qui dit il n'y aura peut-être pas de majorité absolue dans une éventuelle prochaine Assemblée nationale, mais on ne peut pas exclure que le Rassemblement national soit en tête. Donc,
regardons en effet les sondages, François Fressoz. Qu'est-ce qu'ils disent les sondages ?
30% Moi, je crois pour pas le RN.
Mais et que disent les sondages quand on demande aux Français quel est le Premier ministre qu'ils veulent ? Ils répondent en effet Jordan Bardella, 36%. Et le deuxième ?
Bruno
Retailleau, 33%, 3 points derrière. Oui. Donc vous voyez dire que c'est une
mais
fatalité.
Mais pour ça, il faut quand même gagner des législatives, vous voyez,
mais
pour
oui.
être un peu en capacité, comme on dit,
mais
en situation
mais
d'avoir
Matignon. Notre travail, c'est ça, c'est de gagner les prochaines présidentielles pour pouvoir gagner les législatives qui suivront et redonner à la France la majorité dont elle a besoin pour pouvoir garantir la politique cohérente qui sortira le pays de l'ornière. C'est ça, notre travail. C'est ça. Alors, je veux bien que vous expliquiez que c'est perdu d'avance, mais tout semble prouver le contraire. Et depuis un an en particulier, parce que vous l'aurez constaté, depuis un an, effectivement, les Français reviennent vers nous. Nous sommes redevenus le premier parti de France en nombre d'adhérents. Nous étions le premier parti de France en nombre d'élus locaux. Nous avons gagné toutes les élections partielles depuis un an, toutes. Et nous allons gagner, d'ailleurs, sans aucun doute, la prochaine élection qui aura lieu dans la deuxième circonscription de Paris. Donc nous aurons un député LR supplémentaire avec Michel Barnier. La vérité, c'est que vous pouvez expliquer que c'est perdu. Moi, je crois exactement l'inverse. Et je crois que notre devoir, c'est de montrer que cette vision cohérente que la droite est seule à porter, seule. Parce que, encore une fois, je le redis, sur la vision qu'il porte pour le pays, le Rassemblement national refuse cette cohérence-là. C'est bien sûr l'ordre dans la rue, mais c'est aussi l'ordre dans les comptes. Et sans ça, on n'y arrivera pas. Cette vision cohérente, nous sommes les seuls à la défendre, et je crois qu'elle gagnera.
Question politique sur France Inter.
Cette crise politique, François-Xavier Bellamy, elle s'accompagne d'une grogne sociale qui monte avec la date du 10 septembre et le mouvement Bloquons tous a démarré sur les réseaux sociaux à la mi-juillet. Hein, c'était juste après l'annonce des 44 milliards d'économies. Et ces derniers jours, sur le terrain, il y a eu des assemblées générales de citoyens qui partagent leurs exaspérations. C'était encore le cas cette semaine à Rennes.
On sait très bien que peu importe le gouvernement, les questions, enfin là, des quartiers populaires, des gens qui travaillent, etc., elles seront jamais prises en compte. Nous, en tout cas, c'est une chose qu'on porte et que du coup, on sait qu'il faut s'organiser directement.
En fait, on concentre toutes les difficultés et toutes les précarités qui existent. Et là, on nous demande de faire des efforts alors qu'on est.
Alors qu'on est, on n'a pas eu la fin du sonore.
François, ça doit être ça.
Ça doit être ça, merci Alix Bouyagué. Comment est-ce que vous le regardez, ce mouvement qui est inédit quand même, hein, François-Xavier Bellamy, bloquons tout, à quoi vous attendez ? Comment vous l'analysez ?
Moi je comprends profondément la colère qui traverse le pays aujourd'hui. Je ne crois pas que le blocage soit la réponse à lui apporter. Je ne crois pas en particulier que rejoindre un mouvement qui semble être désormais directement instrumentalisé par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise soit la meilleure façon de répondre aux aspirations très légitimes que le pays est en train d'exprimer. Le fait est qu'aujourd'hui, nous vivons, notre pays et tous les Français connaissent un appauvrissement sans précédent. Si vous regardez l'évolution du niveau de vie des Français par rapport à leurs voisins allemands, par rapport aux États-Unis, si nous regardons la trajectoire de notre pays, nous constatons, nous touchons du doigt la réalité de cet appauvrissement. Et donc, maintenant, la question, c'est comment on passe de ce constat à la réponse indispensable.
Alors, justement, tout le discours a consisté, du président de la République, du Premier ministre, a consisté à dire, oui, il y a sans doute risque d'appauvrissement. En tout cas, il y a risque de plus pouvoir financer le modèle social tel qu'il existe. Et donc, il faut produire plus. Il n'y a absolument aucun consensus sur ce sujet. On voit bien que sur la question des retraites, l'allongement de l'âge de la retraite, ça est premier mouvement social. Quand vous essayez d'élargir et de dire aux Français, il faut travailler plus, ça ne marche pas. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une crise politique, institutionnelle, sociale, sociétale? Et pourquoi vous pourriez prétendre avoir la solution alors qu'on voit que personne n'est d'accord sur la solution à venir?
Mais d'abord parce qu'il faudrait commencer par ouvrir lucidement les yeux sur le constat. Et là, c'est notre responsabilité
collective. Ah ben, François
collective.
Bayrou l'a quand même fait sur la dette.
Revenons sur la dette. Je pense que le constat, il est absolument inévitable. Et malheureusement, je suis sidéré de voir qu'il y a encore, en France, à gauche, un camp du déni qui refuse de regarder en face la réalité du danger que représente notre trajectoire budgétaire. Et encore une fois, je le redis, les Européens, y compris les socialistes européens, ont beaucoup de mal à comprendre l'ampleur de cet aveuglement. Mais si on regarde la réalité du constat, est-ce que la France travaille assez pour produire ce dont elle a besoin? La réponse est évidemment non. Parce que, et l'OCDE l'a encore rappelé il y a quelques jours, dans une enquête qui vient de paraître, la réalité, c'est que la France, c'est le pays de l'OCDE où, sur une vie, on travaille le moins par habitant en moyenne. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a un malentendu? C'est parce qu'en effet, la question est qui doit travailler plus? Et le grand drame, c'est là où nous divergeons profondément avec la réponse qu'a apportée François Bayrou à cette question. Le grand drame, c'est qu'on demande à la France, qui travaille déjà, de travailler encore plus. Derrière cette moyenne, derrière le fait qu'en moyenne on travaille le moins par habitant sur une vie en France, il y a en fait une immense inégalité, qui est une immense injustice. Il y a dans ce pays des gens qui bossent, et qui bossent beaucoup, et qui travaillent très dur, et qui ont du mal à s'en sortir, même en travaillant très dur, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et il y a malheureusement dans notre pays, et c'est ça la réalité du problème, beaucoup de gens qui devraient pouvoir être en emploi.
Alors, qui,
et qui n'y sont pas.
Qui
ben, ça se concentre sur les deux grandes parties de la vie que sont, d'une part, la jeunesse, et là on a un immense sujet sur l'emploi des jeunes, et je le dis comme professeur, on parlera peut-être de l'école tout à l'heure, mais j'étais professeur pendant 10 ans, je crois que la crise de l'école c'est le sujet qui devrait tous nous empêcher de dormir.
On en parlera
chaque
plus.
Année le système scolaire perd 150 000
on
jeunes,
parlera.
On a 150 000 jeunes par génération qui sont ce qu'on appelle des NEETs, ils sont ni dans un emploi, ni dans une formation, mais... ni dans un stage. Ces jeunes-là, ce sont autant de jeunes qui sont d'abord privés de la capacité de s'accomplir dans leur vie professionnelle, dans leur talent, dans leur existence, mais ce sont aussi autant de jeunes qui ne contribuent pas à la vie de la société.
Ces jeunes, si on reste sur les jeunes, donc les jeunes et les plus vieux, en effet, ils n'ont pas la capacité d'avoir un emploi, ils n'ont pas accès à l'emploi. Est-ce que ce que vous leur proposez...
Attendez, les plus vieux, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est que là, on a aussi une divergence majeure, manifestement,
oui,
sur la question de la retraite.
Mais y compris à LR, au moment où il fallait voter la réforme des retraites, une partie...
Nous l'avons votée, cette réforme, elle a été adoptée.
Une partie a refusé.
Elle a été adoptée, cette réforme...
Parce que c'est devenu votre cliente électorale aussi, les retraités.
Cette réforme, elle a été adoptée parce que LR l'a soutenue, ce qui était objectivement extrêmement difficile. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas parfaite. Mais il fallait faire cette réforme des retraites. Il faudra encore y revenir pour plus de justice et pour plus d'efficacité. Le fait est qu'aujourd'hui, on a un problème majeur, en effet, sur cette partie de la vie.
Et vous proposez
et
quoi aux jeunes, par exemple, pour aller vers le travail ?
Et c'est ça la folie que représente la retraite à 62 ans.
Oui, peut-être que sur les jeunes, c'est
sur
vrai.
Sur les jeunes, vous leur proposez quoi pour aller vers le travail, donc ?
Mais d'abord, il faut repenser complètement. Il faut d'abord reconstruire notre éducation nationale. On en parlera, qui traverse une crise.
Ça, on en parlera.
Mais l'enjeu, il est absolument majeur. Et ensuite, la meilleure des choses à faire pour reconduire vers le travail ceux qui n'y sont pas aujourd'hui, eh bien, c'est de libérer le travail. C'est de faire en sorte que le travail paye. C'est de faire en sorte que le travail soit mieux rémunéré. Je le disais à l'instant, il y a beaucoup de gens qui bossent beaucoup, qui ont du mal à s'en sortir. Et dans beaucoup de situations, il est préférable, dans notre pays, de ne pas travailler que de retourner vers l'emploi.
Vous voulez une réforme de l'assurance chômage.
La folie absolue. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à créer cette allocation sociale unique qui agrégera toutes les allocations reçues aujourd'hui au titre des différents dispositifs de ce maquis social qui a fini d'être construit et qu'on plafonne toutes les aides sociales à 70% du SMIC. Pourquoi ? Parce que c'est absolument intolérable que dans notre pays, il soit parfois mieux rémunéré de ne pas travailler que de travailler. C'est ça la folie dans laquelle
Question d'Alex Bouillac.
Si on se situe dans, on va dire, l'enveloppe globale, c'est-à-dire le budget, et si on se situe aussi dans l'après-Bayrou, vous dites quoi ? Face à cette crise sociale et politique, vous dites, est-ce qu'il faut s'entendre, c'est-à-dire trouver un compromis, sans doute, faire un pas vers le Parti Socialiste, hein, comme le dit le chef de l'État, ça veut dire enterrer les jours fériés, taxer quand même un peu plus les grands patrimoines, réduire le montant global des économies à réaliser. François Bayrou en veut 44, la gauche en veut 22. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur, je ne sais pas, 30? Est-ce que vous dites, ce ne sera pas le budget parfait de la droite, donc il faut faire un compromis?
Ah non, mais ça c'est sûr que dans les deux ans qui viennent, je le redis, avant une élection présidentielle, nous ne pourrons pas faire tout ce que nous voudrions pour le pays. Et notre premier devoir, c'est de préparer l'alternance. Mais en attendant, on ne va quand même pas faire le contraire de ce qu'on pense nécessaire pour le pays.
Alors, c'est quoi les lignes rouges,
voilà,
précisément?
Et le contraire de ce qui est nécessaire pour le pays, c'est de rajouter des dépenses publiques et de rajouter des impôts.
Alors, je le répète.
Oui. Alors, soyons précis.
Les deux en même temps. Françoise Fraisseau.
Soyons précis. Sur les impôts, s'il y a une taxation des hauts patrimoines, qui ne sera peut-être pas forte, c'est finalement la taxe Zuckmann, mais qui peut ressembler à ça, est-ce que vous dites non, c'est sans nous? sans participation, sans soutien.
Est-ce qu'il y a un pays, Françoise Fressoz, où les impôts, où la part de taxation sur le PIB est plus important qu'en France, dans le monde, dans l'OCDE aujourd'hui, dans le monde des pays développés?
Là, on parle la des ultra-riches. Hein, Françoise Fressoz vous questionne sur les ultra-riches. C'est mais, ça la mais, taxe, Zucman.
Et vous savez très bien, je rajoute juste, et après vous répondrez, que les ultra-riches, ils échappent quand même beaucoup plus à l'impôt que les classes moyennes, les classes supérieures. Il y a l'optimisation, il y a la transmission du patrimoine par l'héritage. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à faire?
Mais vous savez, ça fait alors, d'abord, la suppression de l'ISF, ça a coûté à la France quelques milliards, 3 milliards de mémoire. La transformation de l'ISF en IFI. Aujourd'hui, la réalité de la dette publique, c'est 3 000 milliards. Donc, on peut fantasmer autant qu'on veut sur le patrimoine des ultra-riches. Vous pouvez prendre à Arnaud et Pinault la totalité de ce qu'ils possèdent. À la fin, ça ne résout pas votre problème. Et on a plutôt intérêt à garder en France des gens dont la richesse
ils
permet de créer
pas, en fait,
des emplois. On a plutôt intérêt à faire en sorte qu'on évite de perdre définitivement les capacités productives qui restent encore dans ce pays. Maintenant, le sujet de fond, encore une fois, c'est plutôt que de désigner des boucs émissaires, de chercher des coupables, de trouver les grands méchants auxquels il faudrait faire les poches, le vrai grand sujet, c'est d'aller résoudre structurellement le problème de la dépense
publique.
Oui,
mais vous voyez bien, là, deux ans
pardon, le
présidentiel...
dire, aujourd'hui, ceux qui crèvent du poids des impôts, c'est pas les ultra-riches, en effet. Ceux qui crèvent du poids des impôts dans ce pays, c'est les classes moyennes qui bossent et qui ne s'en sortent plus. C'est ça la réalité de la France. Et donc, quand on arrive avec un programme qui consiste à dire on va faire des taxes en plus, moi je dis que c'est l'exact inverse.
Donc c'est votre ligne rouge et en même temps vous entendez aussi cette espèce de besoin de justice sociale de dire si on nous demande des efforts à nous, c'est pas normal que les plus riches s'en exonèrent. Ça vous l'entendez pas?
Non mais moi vous savez, quand je vais partout dans le pays, le besoin de justice sociale, je l'entends surtout de la part des Français qui m'expliquent qu'aujourd'hui, ils payent des impôts pour beaucoup de gens qui n'en payent pas. Comment est-ce que ça se fait qu'effectivement, aujourd'hui...
Qui n'en paye pas?
Mais par exemple, quand vous arrivez tout juste en France, que vous êtes immigré, y compris de manière irrégulière, que vous arrivez sur le sol français, vous avez droit, par exemple, dans le cadre de l'AME, à des soins, à des médicaments que les Français vont devoir payer plus cher parce que les franchises augmentent. Moi, j'entends ça de la part des Français. Est-ce que cette injustice-là, on l'entend aussi chez France Inter?
Là non plus,
pardon,
vous n'allez pas résoudre le problème.
Mais c'est quand même important de l'expliquer.
On entend tout sur France Inter,
ouais,
qui est le service public.
J'ai l'impression que ça va un peu dans le même sens. Pour l'instant, on parle surtout des ultra-riches. Moi, ce que me disent les Français que je rencontre tous les jours, ce que nous dit la France des honnêtes gens que nous défendons avec Bruno Retailleau, la France des gens qui bossent et qui essayent de s'en sortir, et c'est d'abord que peut-être il faudrait que tous ceux qui, dans ce pays, bénéficient de prestations commencent par y contribuer. Que tout le monde puisse faire en sorte de participer à la solidarité nationale avant d'en tirer les bénéfices et les fruits. Et ça me paraît effectivement une mesure de justice sociale absolument indispensable.
François-Xavier Bellamy, je voudrais vous faire réagir à cette déclaration de François Bayrou qui est de nouveau sur un plateau ce dimanche. Il dénonce des forces politiques, je cite, en guerre civile les unes avec les autres depuis 3 ans à l'Assemblée, qui vont s'allier ensemble pour abattre le gouvernement. Des forces politiques en guerre civile les unes avec les autres. En fait, c'est votre irresponsabilité qui... L'irresponsabilité, vous avez dit...
Je pense pas tellement qu'il parle de nous.
C'est l'irresponsabilité
du monde politique. Ce qui me semble que c'est les forces politiques qu'il désigne, c'est d'un côté le Rassemblement National, de l'autre côté la France Insoumise, qui vont voter ensemble pour faire tomber le gouvernement, comme ils ont voté ensemble pour faire tomber Michel Barnier.
Et la moitié des Républicains qui ne va pas voter la confiance.
Mais encore une fois, le fait est que la question pourrait se poser de notre responsabilité dans ce sujet, si le Rassemblement National et la France Insoumise, si le Parti Socialiste, les Verts, le Parti Communiste décidaient tous de soutenir avec enthousiasme François Bayrou. À partir du moment où ils se sont tous associés pour dire qu'ils allaient voter contre, de toute façon, l'issue du vote, elle est déjà connue.
Une question en avance dans l'actualité, une question sur l'international. Vous êtes eurodéputé. L'Ukraine a subi la nuit dernière la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit. Plus de 800 missiles russes. Le siège du gouvernement a été incendié. Qu'est-ce qu'on retient, François-Xavier Bellamy, de cette réunion de la coalition des volontaires jeudi à Paris et des garanties de sécurité promises à l'Ukraine? Est-ce qu'on va envoyer des milliers de militaires en Ukraine?
Le travail déterminant qui attend l'Europe, c'est de réussir à surmonter la réalité de sa vulnérabilité d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous sommes incapables d'apporter à l'Ukraine des garanties de sécurité solides, y compris aujourd'hui, dans ce moment de conflit qui ne cesse pas, vous le rappeliez à l'instant, parce que tout simplement, les Européens ont vécu pendant trop longtemps dans l'idée qu'ils pouvaient goûter les dividendes de la paix et que notre continent s'est désarmé. Et ce désarmement, il faudra des années pour y faire face. C'est le sujet sur lequel je travaille au Parlement européen aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'aboutir dans les négociations sur le programme pour l'industrie de défense européenne. Moi, je crois que c'est là que l'Europe peut contribuer le plus, pas en créant une armée européenne qui serait une chimère, mais en faisant en sorte que notre industrie de défense reçoive enfin les moyens nécessaires pour recommencer à produire massivement sur notre sol ce dont nous avons besoin pour équiper nos forces armées.
Vous êtes plutôt optimiste sur ce qui se passe ou parce qu'en fait, il y a deux lectures. Soit cette coalition se dit bah, il y a quand même un sursaut européen. On laisse pas Poutine prendre l'Ukraine. Mais est-ce qu'on est capable là, actuellement, de se ressaisir sur la défense?
Mais le grand problème, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, la prise de conscience, elle est claire. Et les Européens ont compris qu'ils avaient devant eux l'urgente obligation de sortir de leur dépendance à l'égard des États-Unis. Mais pour pouvoir y parvenir, il va falloir quelques années à minima. On ne reconstruit pas à partir de rien un outil militaire, un outil d'industrie de défense qui s'est si profondément fragilisé au cours des dernières années. Et donc, la grande difficulté, ça va être de gérer cette temporalité. Et dans l'immédiat, il ne faut pas se mentir, il faut regarder en face la réalité. Dans l'immédiat, il est très clair que les pays européens ne sont pas capables d'assurer tout seuls, y compris leur propre sécurité. La France fait certainement exception dans l'Union européenne parce que grâce à la dissuasion nucléaire, grâce à cette armée d'intervention que nous avons gardée, nous avons encore une capacité d'agir et de maîtriser de manière souveraine les conditions fondamentales de notre sécurité. Mais même nous avons un effort à faire, un effort à continuer. Et dans le contexte de tensions budgétaires que nous vivons aujourd'hui, il faudra que cela reste absolument une priorité.
François-Xavier Bellamy, vous êtes l'invité de Questions politiques. Vous êtes un homme discret. On va essayer de mieux vous connaître aujourd'hui.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Questions politiques.
Mais voici maintenant que je m'en vais, Athéniens, et nous nous quittons, moi pour mourir, et vous pour vivre. Mais qui de nous a le meilleur sort? Seul le Dieu le sait.
Un extrait de vos seuls en scène, les soirées philo au théâtre.
C'était sur la scène de l'Olympia d'ailleurs.
C'était le 9 octobre 2023. Celle qui dévoile nos invités, qui fouille dans leur bio, c'est Alix Bouyaguet.
Alors justement, sur cet extrait, effectivement, on vous entend, on vous voit arpenter la scène de l'Olympia. Je le rappelle, vous êtes agrégé de philosophie et donc vous organisez régulièrement comme ça des soirées philo au théâtre. Est-il fou d'être toujours sage? C'était la question d'une de vos soirées l'année dernière où vous plaidiez pour une dose de folie. Alors que, bon, on vous regarde, vous avez vraiment le physique d'un gendre idéal, vous êtes courtois, vous êtes policé. Bref, vous donnez vraiment l'impression d'être toujours sage. Quelle a été votre dernière folie?
Peut-être le grain de folie, c'est de continuer les soirées de la philo, en effet, qui est une sorte de respiration un peu surprenante dans le paysage politique. Je m'oblige à continuer ce cycle de conférences à Paris parce que d'abord, c'est un bonheur absolu de retrouver le
public. Vous avez l'œil qui brille.
Au Théâtre Antoine, on reprend le 22 septembre. Voilà, vous me permettez de faire cette proposition à tous ceux qui nous écoutent. Et je fais ça bénévolement à la tête de la structure que j'ai créée pour pouvoir partager cela. Mais parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est donc pas pour un intérêt matériel, mais parce qu'aujourd'hui, on a un besoin profond de revenir à la source, de revenir au sens de ce qui fait nos engagements. Et il me semble que ce qui est le plus dévastateur dans le spectacle que la vie politique donne aujourd'hui, c'est ce sentiment de l'absurde, ce sentiment de vacuité absolue que les Français doivent percevoir parfois, remettre les questions essentielles au cœur de la vie politique, c'est aussi ce que j'essaye de vivre à travers les soirées.
Vous n'étiez absolument pas programmé pour faire de la politique. Hein. Je rappelle, vous avez été enseignant, philosophe. C'est Philippe de Villiers qui souffle votre nom à Laurent Wauquiez pour prendre la tête de liste des européennes en 2019. À l'époque, qu'est-ce qu'on entend? On dit que vous êtes trop tendre, pas assez offensif, que vous aurez du mal à survivre, que vous détestez les polémiques. Est-ce que vous êtes taillé vraiment pour la rudesse du combat politique?
Mais je ne crois pas que, parce qu'on essaye d'être à la hauteur des enjeux, on puisse pour autant être moins combatif. Et je pense que personne ne contestera que je n'ai pas varié, que j'ai affronté bien souvent l'adversité, y compris dans les deux campagnes européennes que j'ai menées en 2019 et en 2024. Et que c'est à chaque fois, d'ailleurs, dans ces contextes extrêmement complexes, à travers ces campagnes, que la droite a pu commencer de retrouver le nouvel élan dont elle avait besoin, y compris, encore une fois, parfois, dans des confrontations assez rudes, comme celles que j'ai pu vivre face au macronisme, à l'époque, triomphant, face à l'extrême-gauche.
Mais vous avez aussi horreur du conflit. Alors, comment on peut survivre chez les Républicains coincés entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau?
Non, j'ai horreur des conflits absurdes. Je n'ai pas horreur du combat quand il est nécessaire pour défendre des idées qui sont, je crois, indispensables à l'avenir de notre pays. Ce qui compte, c'est que le conflit ne devienne pas la vanité d'une guerre d'égo ou l'artifice...
Ça l'est un petit peu quand même, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez...
Vous savez, Bruno
Retailleau, la guerre d'égo, elle est là.
Je connais les deux depuis longtemps et je pense qu'on peut leur reconnaître d'être animés, là encore, par des lignes qui n'ont jamais varié. Et Bruno Retailleau,
Laurent Wauquiez a souvent varié quand même en termes de lignes.
Bruno Retailleau, je l'ai soutenu il y a 3 ans quand il était candidat pour la présidence du parti. Je l'ai soutenu à nouveau il y a quelques mois au moment où il a gagné. Je ne l'ai jamais vu varier sur les sujets essentiels pour l'avenir de notre pays. On peut être ou pas d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un dont la constance et dont la clarté font qu'il est aujourd'hui la clé de la confiance retrouvée par beaucoup de Français envers notre famille politique.
Je reviens à vous, vous êtes jeune, vous avez 40 ans, vous êtes engagé, vous êtes aussi un gros bosseur, hein, c'est ce qui se dit au Parlement européen. Pourquoi depuis Michel Barnier, vous n'avez jamais été ministre? Qu'est-ce qui cloche chez vous? Est-ce que c'est parce que c'est vos convictions qui vous freinent? Vous êtes catholique contre le mariage pour tous, contre l'IVG? Est-ce que vous êtes trop conservateur? Est-ce que vous êtes trop conservateur pour l'époque?
Dites-nous si c'est faux. Dites-nous si
c'est faux.
Est-ce que vous pensez surtout que c'est ça qui peut vous freiner?
Écoutez, je ne crois pas, encore une fois. Si les Républicains m'ont confié 2 fois la tête de leur liste pour l'élection européenne, si je suis aujourd'hui le premier vice-président de ce parti, si j'ai le grand honneur de pouvoir jouer ce rôle important au sein de notre famille politique, c'est parce que, j'imagine, on ne m'a pas considéré comme étant trop marginal et peut-être que par le travail que je fais tous les jours au Parlement européen et qui a permis de gagner des victoires majeures sur les questions d'énergie, la lutte pour remettre le nucléaire au cœur du mix politique européen, pour l'industrie, pour défendre notre capacité de production en Europe, pour les agriculteurs qui sont aujourd'hui si éprouvés, pour les pêcheurs de France. C'est ça, les combats que je mène tous les jours. Et en particulier, et peut-être en premier lieu, le combat pour l'école, parce que nous en avons tellement besoin. Eh bien, si j'ai mené tous ces combats-là, c'est peut-être que je ne correspond pas tout à fait à la caricature que certains essayent de donner de moi.
On y arrive à l'école, ça fait plusieurs fois que vous le prononcez. Ce mot, on vous a demandé de choisir un thème, et le prof que vous êtes a choisi l'éducation nationale. La rentrée... Commençons avec ce drame, les obsèques de Caroline Grandjean-Pacou, elles ont eu lieu cette semaine, ce jeudi. Cette directrice d'école dans le Cantal s'est suicidée le jour de la rentrée scolaire, mariée à une femme. Elle était victime d'injures homophobes et de menaces. Aujourd'hui, nombre de professionnels de l'éducation dénoncent un échec de l'institution et disent que cette homosexualité est un sujet tabou dans l'éducation nationale. Qu'en pensez-vous ?
Mais je pense que le problème est plus large. Cette directrice d'école, elle a été effectivement insultée à plusieurs reprises, de manière très publique. Elle a fait état de la situation à sa hiérarchie. Elle a dit son mal-être profond. Elle a dit le danger dans lequel elle se sentait. Et au fond, on lui a demandé ce que l'éducation nationale fait avec tant de professeurs depuis si longtemps. On lui a demandé surtout de ne rien dire. On lui a demandé d'étouffer l'affaire. On lui a demandé de faire comme si tout allait bien.
Mais l'affaire de quoi ? Des menaces ou de son orientation sexuelle ? Qu'est-ce qu'on lui demande de taire dans vos propos ?
Mais c'était son orientation sexuelle qui était ici en jeu. Mais d'autres professeurs ont vécu tellement d'autres situations similaires, parfois pour d'autres raisons. Je pense à cette professeure d'un collège d'Île-de-France que j'ai été rencontrer. J'ai été rencontrer ses collègues dans une petite manifestation qu'ils organisaient il y a quelques semaines de cela, juste avant l'été, après avoir écrit plusieurs courriers à l'éducation nationale. Cette professeure qui reçoit des menaces de mort et qui dit sa détresse devant le risque dans lequel elle se trouve et à qui on explique que non, finalement, tout va bien et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, alors que, en fait...
Qu'aurait-il fallu faire ?
Mais il faut sortir de la culture qui, aujourd'hui, gangrène l'éducation nationale, qui est la culture du pas de vague. Tous les professeurs de France connaissent cette culture. Et malheureusement, Samuel Paty en est mort. Pas de vague. Faire comme si tout allait bien. pas de vague face à l'islamisme, pas de vague face à l'insécurité, pas de vague face à la crise éducative dont les effets se font sentir tous les jours et qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'enseignants...
Pas de vague, il y a eu Jean-Michel Blanquer, il y a eu quand même des ministres qui sont arrivés avec l'intention de... En tout cas, un affichage, un discours qui n'était pas de vague.
Je ne conteste pas l'intention, mais la réalité, c'est que ça n'a pas changé aujourd'hui. Et la réalité, c'est que dans l'éducation nationale, nous vivons l'effondrement d'un service public, l'effondrement silencieux de la mission la plus fondamentale pour notre société, malgré le dévouement des professeurs qui se donnent tous les jours dans des conditions souvent extrêmement difficiles, notre école est en train de s'effondrer sur elle-même. Comme l'hôpital public, sans aucun doute, dont on parle parfois un peu plus, dans une forme de silence qui me paraît extrêmement dangereux pour l'avenir de notre pays.
Jean-Michel Blanquer avait... Essayez de changer en profondeur l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez qu'au fond, dans les structures actuelles, c'est plus possible et qu'il faut changer entièrement de modèle ?
Il faut changer de modèle. En tous les cas, il faut tout reprendre du début. Regardez encore une fois simplement la réalité du constat. Repartons des chiffres. Nos élèves sont, c'est ce que montre l'enquête TIMSS, qui est une enquête internationale que personne ne conteste pour son sérieux, nos élèves sont les derniers d'Europe en mathématiques. Les derniers. L'enquête publiée par le ministère de l'Éducation nationale lui-même...
Ça, c'est le constat. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez ?
Pardon.
C'est quoi les...
Oui, mais le constat, il est très important parce que malheureusement, on fait l'impasse bien trop souvent. L'enquête publiée par le ministère de l'Éducation nationale après la journée d'études et de citoyenneté qui permet... La journée de défense et de citoyenneté qui permet de faire un test de lecture à tous les jeunes Français à 18 ans. Un jeune Français sur 5 à 18 ans a des difficultés majeures pour lire le français correctement. Un jeune Français sur 5, 20% des jeunes
D'accord,
Français. Et nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de l'OCDE. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, on voit la réalité du changement complet qu'il va falloir vivre au sein de l'éducation nationale. Et ça suppose, encore une fois, de mettre en œuvre une politique très, très ambitieuse. Mon regret, c'est que depuis des années, finalement, quelles que soient les majorités qui se sont succédées, depuis finalement, en particulier François Hollande et ses ministres, on n'a jamais cessé de faire toujours la même chose. Moins d'heures de cours, moins de cours sur les matières fondamentales, toujours plus de dispersion des savoirs, toujours moins de transmission et, d'une certaine manière, toujours moins de concentration de l'école sur ce qui est le cœur de sa mission, c'est-à-dire enseigner et instruire.
Une dernière question très, très rapide sur ce sujet qui peut sembler plus anecdotique, mais il y a de nombreux profs qui témoignent aujourd'hui de l'irruption de l'intelligence artificielle dans leur quotidien, notamment les copies rendues par les élèves, avec souvent du copier-coller. Comment on fait avec l'IA ?
Ben d'abord, comment on fait avec le numérique ? Beaucoup de professeurs témoignent, c'est Camille Desjardins qui a publié un livre magnifique qui s'appelle « Pour sauver l'école républicaine » qui parle du danger majeur que représente aujourd'hui l'irruption des écrans dans les salles de classe et le fait que l'écran fait concurrence directement au travail de l'enseignement. On voit bien qu'il y a là un enjeu majeur. Et moi, je le dis depuis très longtemps. J'ai publié un livre en 2014.
Donc l'IA, il faut faire comme si ça n'existait pas ?
J'ai publié un livre en 2014 sur ce sujet dans lequel je disais « L'avenir de l'école, c'est l'école sans écran ». L'avenir de l'enfance, c'est l'enfance sans écran. Et peut-être que ça m'a valu à l'époque d'être traité d'horrible conservateur rétrograde, mais vous verrez qu'on y viendra. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce qui fera la différence demain entre ceux qui seront capables de gouverner leur propre vie et ceux qui seront conduits à ne faire que la subir, c'est le fait d'avoir grandi avec sa capacité d'attention, sa capacité de concentration, d'avoir pu contrôler sa propre attention. Et c'est ce qui est menacé aujourd'hui par une société qui donne des téléphones supposément intelligents à des enfants à partir de 8, 9, 10 ans, parfois plus jeunes encore. C'est ce qui fait que les réseaux sociaux sont devenus l'ennemi mortel de la liberté, l'ennemi mortel de l'équilibre, l'ennemi du développement et de la vie des enfants.
Bon, c'est pas l'IA, vous parlez des réseaux sociaux, c'est pas l'IA, mais...
Et les enfants qui auront grandi sans ces écrans seront les mieux à même de se servir de l'IA, seront les mieux à même de se servir de tout ce qu'il y a dans le digital et le numérique de promesses pour réussir à servir l'humanité. Sans quoi, nous vivrons une déshumanisation profonde de notre société.
On avance.
Question politique. Sur France Inter.
Nous avançons car comme chaque semaine, François-Xavier Bellamy, Françoise Fressoz interroge une question. Il y aura sans doute l'école, mais il y en aura une autre qui sera au cœur du débat public et de la présidentielle. C'est la question de l'immigration.
Oui, vous disiez tout à l'heure que les partis conservateurs relèvent la tête en Europe, mais on voit aussi en Europe l'extrême droite forte dans les sondages, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, des partis populistes qui travaillent les forces conservatrices sur le thème de l'immigration. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interpeller. On a vu quand même LR, la doctrine de LR en matière migratoire, évoluer fortement. Vous demandez notamment une révision constitutionnelle pour
depuis
essayer...
très longtemps.
voilà, pas depuis très longtemps.
Ah si, si, si.
Pas depuis très longtemps, depuis quelques années, pour dire, au fond, remettre aussi en cause certaines du droit européen, contester la Cour européenne de justice. Et donc, c'est là-dessus que je voulais vous interpeller, c'est au fond, est-ce que vous estimez, comme le Rassemblement national, que pour reprendre la main sur l'immigration, il faut revenir à des politiques nationales, il faut dire non à l'Europe, et il faut complètement inverser le cours des choses aujourd'hui.
Ce que nous disons est très clair, il faudra changer profondément de politique au plan européen comme au plan national. Et ça fait pas hier que nous disons ça, hein. Je disais en 2019 que nous avions besoin d'une double frontière, reconstruire la capacité de l'Europe à maîtriser ses frontières extérieures pour redonner à nos États membres la capacité de décider de leur politique migratoire de manière souveraine. C'est la politique que nous voulons et c'est celle que nous défendons. Et c'est pas le Rassemblement national qui dit ça, en l'occurrence, sur le problème que représente la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. On pourrait ajouter pour nous en France le Conseil constitutionnel. On l'a vu encore cet été avec la décision qu'il a rendue. C'est 12 États européens sur 27 qui ont signé un courrier pour demander qu'on sorte de cette jurisprudence affolante qui désarme aujourd'hui nos États. Quand le Conseil constitutionnel cet été censure la loi qui prévoyait qu'on pouvait retenir plus de 90 jours dans des centres de rétention des étrangers en situation irrégulière suspectés ou condamnés pour terrorisme, alors que la règle européenne, c'est qu'on peut les garder pendant plusieurs mois. La règle appliquée en Allemagne, en Espagne, dans la plupart des pays européens, c'est parfois qu'on peut les retenir jusqu'à 2 ans. Le Conseil constitutionnel interdit aux législateurs français d'étendre au-delà de 90 jours. Mais c'est une folie. Comment vous voulez que les Français comprennent ça ?
Oui, mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'au fond, vous vous dites qu'il faut changer. Je peux comprendre votre réflexion, mais ce que je ne comprends pas, c'est où elle aboutit. C'est-à-dire que première chose que vous faites, c'est vous engagez un bras de fer avec le Conseil constitutionnel, avec les institutions européennes, et vous dites non, mais on reste quand même dans l'Europe. Mais en fait, c'est explosif. Vous remettez en cause un certain nombre de règles européennes, de valeurs européennes, et vous dites non, tout va très bien se passer.
Qu'est-ce que vous appelez ces valeurs européennes ? Est-ce que l'impuissance est une valeur européenne ?
Moi, la sauvegarde des libertés fondamentales, c'est une sauvegarde de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Donc, est-ce que coup, vous le remettez en cause et
cause ? C'est un droit de l'homme de pouvoir immigrer illégalement n'importe où dans le monde quand on veut et quand on en a envie. Mais ça ne l'est pas. Et François Sressoz, pour vous montrer que je crois que l'Europe doit jouer son rôle sur ce sujet, je suis rapporteur sur le règlement européen sur les retours. C'est le règlement qui détermine la manière dont les expulsions doivent s'organiser. Aujourd'hui, nous avons une directive sur ce sujet qui, en fait, est une directive anti-retour, qui empêche les États membres d'agir. Il faut changer la logique. Et demain, et c'est un combat que nous portons avec la majorité des États membres de l'Union européenne, demain, nous allons faire en sorte qu'effectivement, quelqu'un qui rentre illégalement sur le sol européen soit certain de ne pas y rester. Aujourd'hui, comme vous le savez, quelqu'un qui a été débouté du droit d'asile une fois, deux fois, trois fois, après 5 recours, est sûr ou presque sûr de ne jamais être expulsé. Donc le droit d'asile, il est contourné tous les jours dans notre
dans
pays. Est-ce que ça s'appelle les droits de l'homme ?
Dans votre discours,
je crois exactement le contraire.
L'immigré essaye de forcer vos portes pour... l'immigré, il est peut-être là aussi parce qu'il vit des choses épouvantables, parce qu'il va y avoir dans le monde
on va sortir des fantasmes abstraits. La réalité est très simple. Quelqu'un est soit éligible, soit n'est pas éligible au droit d'asile. Quelqu'un qui est éligible au droit d'asile, il doit pouvoir demander l'asile en dehors des frontières européennes et ensuite être accueilli. Et moi, je crois qu'effectivement, la France, même parfois, a refusé l'asile à des gens auxquels elle aurait dû le donner. Je pense aux interprètes afghans qui ont travaillé pour l'armée française, qui n'ont jamais pu être accueillis en France et dont on sait malheureusement le sort terrible qu'ils ont eu au retour des talibans. Maintenant, aujourd'hui, la réalité, elle est très loin de ça. La réalité, c'est que des gens qui ne sont pas éligibles à l'asile et qui ont présenté leur demande, qui ont été déboutés, qui ont fait un recours, qui ont été déboutés, un deuxième recours débouté également, à la fin, restent sur le sol français indéfiniment. Et ça, pour ma part, je crois que ça n'est pas les droits de l'homme, que c'est un dévoiement total des droits de l'homme, et que c'est même un dévoiement total du droit, et que ce dévoiement du droit, nous devons y mettre fin. Et nous allons le faire, parce que oui, nous organiserons en France, quand nous aurons gagné l'élection présidentielle, un référendum qui permettra aux Français de décider souverainement de leur politique migratoire. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, vous savez, qui en dernier ressort à la souveraineté sur cette question.
L'émission touche à sa fin, François-Xavier Bellamy, et on voudrait inaugurer avec vous une nouvelle petite séquence. Je pose des questions, tous azimuts. Vous répondez d'un mot, vrai ou faux, ça va vite. Est-ce que vous voyez ministre de l'économie, de l'éducation, vrai ou faux, François-Xavier Bellamy? Vous voyez bien, vous verriez bien ministre de l'éducation, vrai ou faux?
C'est faux, c'est une mission infiniment difficile. Ce qui compte, c'est qu'on reconstruise l'école, mais la question
avec
n'est pas
personnelle. Avec la garantie donnée par Bruxelles, la France devrait donner son feu vert à l'accord commercial du Mercosur.
Faux, parce que cette garantie ne semble pas opérationnelle pour l'instant.
Il faudrait revenir au septennat, mais un septennat unique. Vrai ou faux?
Pas forcément unique, mais en tous les cas, je crois qu'il faudrait revenir au septennat.
Il y a beaucoup de mixité sociale aux soirées de la philosophie que vous organisez au Théâtre Antoine.
Vrai, je serais heureux d'y accueillir France Inter.
Vous avez déjà voté Rassemblement National. Vrai ou faux?
Ça vous laisse perplexe.
Je crois qu'il y a un isoloir en France, et sans doute pour de bonnes raisons. La vérité, c'est que mon travail, c'est de reconstruire la droite, et je vous ai expliqué pourquoi le Rassemblement National refusait de l'incarner aujourd'hui.
J'ai pas de réponse, pas de vrai ou faux. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été l'invité de Questions Politiques. Auditeurs, téléspectateurs, nous vous souhaitons un excellent dimanche. On se retrouve la semaine prochaine.